théologie fondamentale par le père Philippe Saint-Joseph, le 19 mars 85.
Nous allons continuer ce passage du prophète Isaïe qu'on avait commencé de voir à propos de la parole de Dieu. Je reprends tout, le chapitre 55. « Ô vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. » Vous-même qui n'avez pas d'argent, venez, achetez du blé, mangez sans argent, sans payer du vin et du lait. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Votre gain pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mets savoureux. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez. Et que vive votre âme. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle faite de grâce, assurée à David. Voici que j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaissait pas accourra vers toi. À cause de Yahvé, ton Dieu, et pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Recherchez Yahvé, quand il se laisse trouver, invoquez-le quand il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées. Qu'il revienne vers Yahvé, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, car il se montre riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle de Yahvé. Car autant le ciel est plus haut que la terre, autant mes voix sont plus hautes que vos voix, mes pensées que vos pensées. De même en effet que la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je voulais et fait réussir ce pourquoi je l'avais envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines éclateront devant vous en cris de joie et tous les arbres de la campagne claqueront des mains. Au milieu du buisson croîtra le cyprès, au milieu de l'ortie croîtra le myrte. Ce sera pour Yahvé un renom, un signe perpétuel qui ne sera pas supprimé. Mettez ceci en parallèle avec la fameuse parabole sur la parole de Dieu et la semence. Parce que c'est cela qui nous est montré ici. Vous voyez qu'il y a les pensées, les voix et la parole. Et ça se tient, c'est évident. Les voix, c'est plutôt les commandements. Les paroles, c'est plus général. Et les pensées, c'est le point de vue intérieur. Mais c'est intéressant de voir les trois qui sont quand même liés. Alors, je prends la grande analogie qui nous est montrée ici. Une analogie métaphorique, vous voyez bien, j'espère, pour ceux qui savent distinguer les analogies propres et les analogies métaphoriques. Et c'est ce discernement que vous doit donner la théologie, sans du tout diminuer. Hein. L'analogie métaphorique est récupérée entièrement en théologie mystique. Il ne faut pas l'oublier. Mais en théologie scientifique, l'analogie métaphorique est nécessairement un peu laissée de côté. C'est pour ça que ce n'est pas du tout dans la théologie de saint Thomas, ça. Vous n'avez pas une théologie de la parole de Dieu dans la théologie de saint Thomas. C'est très curieux. Alors, ça relève évidemment de l'exégèse, donc d'une théologie biblique, et ça relève d'une théologie mystique. Je crois qu'on ne peut pas faire une théologie mystique sans une théologie de la parole de Dieu. Et ça relève, comme nous faisons ici, d'une théologie fondamentale. Mais la théologie fondamentale, vous voyez, c'est un peu l'aspect critique sur tout l'ensemble de la théologie. Alors, Voyez l'analogie, de même en effet que la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je voulais et fait réussir ce pourquoi je l'avais envoyé. Donc la terre, c'est celui qui reçoit cette parole de Dieu. C'est le croyant. Il est la bonne terre qui reçoit cette parole de Dieu, qui est capable de la recevoir dans la foi. Oui, vous sortirez dans la joie, et ainsi de suite. Donc l'analogie, c'est de montrer que la parole de Dieu est une semence qui demande de fructifier le croyant, d'être reçu par le croyant et de fructifier l'intelligence et le cœur du croyant. La parabole de Saint Luc montre ça d'une façon beaucoup plus précise, hein, la parabole de Jésus, d'une façon beaucoup plus précise, mais c'est exactement la même vision. C'est donné dans une parabole, et puis ensuite on explique la parabole. Et la parole de Dieu est une semence. Alors c'est aussi ça qui est très important, nous ne l'avions pas vu jusque maintenant. Et c'est important de dire la parole vivante, elle est une semence. Sur quoi porte l'analogie ? Une semence, c'est source de vie. Une semence demande la coopération de la matière pour porter du fruit. Et c'est très net qu'on a les trois. On a la semence, la matière et le fruit. De même, en effet, que la pluie et la neige descendent du ciel, alors pluie et neige, la semence, c'est la parole de Dieu, une semence. La parole de Dieu est comme la pluie. La parole de Dieu est comme la neige. Ça, quand il y en a trop, vous voyez, ça ne va plus. C'est comme la pluie et la neige. C'est comme la pluie et la neige qui doivent, justement, descendre du ciel et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, fait germer. Abreuvé, fécondé, fait germer, les trois aspects, pour qu'elle donne la semence au semeur, donc vous retrouvez la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je voulais, sans et fait réussir ce pourquoi je l'avais envoyé. Donc, vous voyez, on voit très bien le point de vue du fruit, les effets. Alors, quels sont ces effets ? Quand vous regardez cette semence reçue par la bonne terre. La bonne terre, c'est bien l'intelligence transformée par la foi. Et cette bonne terre et l'intelligence transformée par la foi a besoin de cette semence pour porter des fruits. Alors ça, c'est très important de voir que la parole, là, possède quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'elle est source de vie et d'une vie divine pour porter des fruits. Alors, ces fruits sont d'ordre pratique, alors on pourrait dire aimer. Verbum spirant samorem. La parole de Dieu est donné pour que nous puissions aimer. La parole de Dieu nous doit nous aider à aimer. La parole de Dieu doit nous aider à nous convertir. C'est encore un effet, c'est un fruit. La parole de Dieu doit aussi réaliser une théologie. Ça fait partie des fruits. La théologie, c'est bien un fruit, c'est bien la semence, la parole de Dieu qui vient féconder l'intelligence transformée par la foi et qui porte ses fruits. Tout ça fait partie, je dirais, du mystère même de la parole de Dieu. Et ça implique toute cette fécondité. Donc c'est l'idée de fécondité qui est ici, qui est liée à la parole comme c'est lié à la semence. Donc vous voyez par là, parce que c'est une analogie métaphorique, qu'on veut insister sur le fait que la parole et source de vie. C'est en ce sens-là que saint Thomas dira que toute parole divine est lié au Verbe, verbum spirans amorem, que dans toute parole divine est présent le Verbe. Pour bien faire comprendre que cette parole est source de vie, la parole humaine n'est pas source de vie. Elle peut pas. Donc, c'est pas seulement une parole vivante, c'est plus qu'une parole vivante. Elle est une semence. Une semence, c'est quelque chose de substantiel, puisque c'est source de vie. Et que toute source de vie est substantielle. Et donc c'est quelque chose de substantiel. C'est une source de vie, une semence. Un principe qui demande de devenir un grand arbre. Alors tous les fruits, bon, ils sont multiples, ils sont divers, bon, puisque ça doit être 1%. Mais tous les fruits, c'est le retour vers le Père. Alors on voit bien comment cette analogie nous montre tout un mystère de la parole de Dieu qui est très différent à ce point de vue-là de la parole humaine. Alors, voyez les analogies. Ça serait très intéressant à noter. Toutes les analogies qui sont données. Il y a le glaive, il y a la parole humaine, c'est bien évident, elle est toujours présente. Il y a la semence. Si je prends ce que le vieux Denis dit, un principe d'exégèse, plus Dieu veut nous communiquer un secret, plus il prend un symbolisme grossier. Très joli, ça. Plus il veut nous communiquer un secret, plus il prend un symbolisme grossier. Alors, le symbolisme grossier, ici, c'est la pluie, la neige. C'est quand même un symbolisme assez grossier comparativement à la parole de Dieu. La semence, c'est un peu moins, mais vous avez tout cela. Pluie, neige, semence. C'est beaucoup plus grossier comme symbolisme que le symbolisme du point de vue de la parole humaine. L'analogie de la parole humaine demeure tout le temps. C'est là où ce serait intéressant à voir. L'analogie de la parole est-elle une analogie métaphorique ou propre ? La parole. Et tous ces symbolismes qui sont donnés sont des symbolismes. Alors mettez le glaive aussi. Et chacun de ces symbolismes exprime donc quelque chose de particulier sur lequel nous reviendrons. Je fais simplement énumérer, et c'est là où il serait très intéressant, je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas le faire, mais ce serait très intéressant, et si parmi vous il y en a qui ont le temps de le faire, ça vaudrait la peine qu'ils me le communiquent, et on pourrait en faire un tout petit exposé, parce que ce serait très intéressant de relever tout ce qui est dit sur la parole de Dieu dans les différents symbolismes. Oui, relever tous les symbolismes de la parole de Dieu. Pour essayer de comprendre ce qu'il nous est exprimé, ce que Dieu veut nous communiquer sur le mystère de sa parole. C'est un mystère, la parole de Dieu. Donc, nous ne l'épuisons jamais. Et nous nous servons d'une quantité d'exemples pour essayer de pénétrer dans ce mystère. Vous voyez, au point de vue de la réalité, la pluie, la neige, ce n'est pas du tout la parole. Le glaive, ce n'est pas la parole. La semence, ce n'est pas la parole. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole humaine. On ne peut pas dire que la parole humaine, c'est la pluie et la neige. Sauf si en parlant, je vous envoie une neige abondante. Alors à ce moment-là, mais ça accompagne la parole. Mais ce n'est pas la parole. La parole humaine n'est pas la neige, ni la pluie, ni la semence. Ça, c'est bien évident. Mais c'est la parole de Dieu. Et ça nous est dit. La parole humaine peut être semblable à un glaive, c'est vrai. Paroles extrêmement tranchantes, n'est-ce pas, qui sont comme des glaives. Vous voyez, on dira beaucoup facilement. C'est très rare, vous dites votre parole, on pourrait dire, c'est comme la rosée. La rosée, ça ira encore. Il y a des paroles comme ça qui peuvent être extrêmement douces et qui peuvent être comme une rosée. N'est-ce pas ? Ou une parole humaine peut être aussi comme une semence. C'est vrai, tu m'as dit ça et ça a été au point de départ pour moi d'un renouveau de toute ma vie. C'est possible. Un ami peut dire ça à un ami et quelquefois c'est la source. Vous voyez, alors, on retrouve ces analogies. C'est très vrai, mais à une force toute différente. Alors, il faudrait faire cela, je vous dis simplement, il faudrait faire ça. On ne va pas aller plus loin dans cette recherche. Encore une fois, ce serait très intéressant. Ça vaudrait la peine. Je l'ai faite, mais je vous ai dit, j'ai prêté ces feuilles, j'avais fait toute l'enquête. C'est pour ça que j'en ai de la nostalgie. Toute l'enquête à travers toute l'écriture, en regardant le texte hébreu, pour être plus sûr. Eh bien, quand on fait toute l'enquête, c'est extrêmement intéressant de voir cette richesse, Édouard, combien Dieu insiste sur le mystère même de la parole, en donnant toutes ces analogies, en donnant toutes ces comparaisons. C'est un travail, un petit travail facile à faire, hein, quand vous lisez l'Écriture depuis le début jusqu'à la fin. C'est excellent d'avoir comme, si vous voulez, chantier de travail, le mystère de la parole. Et voir toutes les analogies qui sont impliquées dedans. Après, il faut essayer de les comprendre en les unissant, c'est pas commode. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant, ça vaut la peine. Parce que vous comprenez que la théologie n'est pas autre chose que d'essayer de serrer la parole de Dieu dans toute sa force. Les pères de l'Église le disaient. Qu'est-ce que c'est que la théologie ? La théologie a commencé en prenant la parole de Dieu, deux paroles de Dieu qui semblent contradictoires. On les frotte l'une à l'autre, comme deux silex, d'où jaillit la lumière. C'est très beau comme comparaison. Et c'est très fort, parce que c'est vraiment ça, le point de vue de la théologie. Alors, on peut faire la théologie de la parole de Dieu en prenant tous ces textes sur la parole de Dieu et en les frottant l'une contre l'autre, pour essayer de saisir toute sa richesse. Bon. C'est déjà suffisant ce que nous avons dit jusque maintenant. Pour réfléchir maintenant à quelque chose qui me semble extrêmement important pour notre réflexion théologique d'aujourd'hui. Et je dis bien pour notre réflexion théologique d'aujourd'hui, tant du côté de l'exégèse, tant du côté de la théologie moderne. C'est difficile, c'est un point de vue critique, mais c'est en même temps très très important. Puisque Dieu se sert du mot « parole » et que toutes les comparaisons sont autour de la parole, parole de Dieu. Je peux dire qu'il y a une analogie propre du côté de la parole, enveloppée du côté des propriétés d'analogie métaphorique. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Si on veut comprendre loyalement ce que c'est qu'une théologie. Et pour voir la possibilité d'une théologie. C'est ce qu'on fait en critique. Hein. Si entre la parole humaine et la parole divine, il n'y a pas d'analogie propre, il n'y a pas de théologie. La théologie scientifique est impossible. Parce que je ne peux pas lier deux choses tout à fait différentes. Vous voyez, quand Yahvé dit « Les voies de Dieu sont aussi loin des voies humaines que le ciel de la terre », on pourrait dire c'est donc la pure équivocité. Entre ce que Dieu dit, entre les voix de Dieu et nos voix. Et donc, si c'est de la pure équivocité, il n'y a pas d'analogie. Vous voyez ce que veut dire la pure équivocité, c'est quand il n'y a rien de commun. C'est tout à fait divers. Et donc, si c'est tout à fait divers, entre la pensée de Dieu et nos pensées, il n'y a pas possibilité de faire une coopération. Je ne peux pas atteler un âne et un bœuf, hein, comme dit l'Écriture. Je ne peux pas les atteler ensemble. Alors évidemment, vous voyez bien la comparaison. Si entre la parole de Dieu et la parole humaine, il n'y a pas une analogie propre, je ne peux pas unir les deux. Or, dans le discours théologique, et ça nous dit bien le logos théologique, le discours théologique, dans le discours théologique, il y a la parole de Dieu et il y a la parole humaine, liées. Et elles coopèrent l'une avec l'autre. Et elles coopèrent toujours l'une avec l'autre. Il y a un logos divin, donc une parole divine, et il y a une parole humaine. Et les deux sont liés et les deux coopèrent. Et le fruit de cette coopération, c'est justement la théologie. C'est le retour vers Dieu, d'une certaine manière. Saint Thomas mettait près du tabernacle, selon ce qu'il dit comme témoignage, ne faites pas ça ici parce que vous ne pouvez pas éviter matériellement les saints, et puis vous voyez, si vous mettiez toutes vos dissertations sur le tabernacle, près du tabernacle, Le pauvre sacristain, je ne sais pas ce qu'il ferait. Alors, il risquerait de les brûler chaque fois. Alors, vous ne les retrouveriez plus. Saint Thomas mettait, lui, son discours théologique auprès de l'Eucharistie. On dit ça quand il avait fait le traité de l'Eucharistie, en l'offrant à Dieu. Donc, c'est bien le logos divin qui remonte vers le Père. Quand on fait de la théologie, on fait une œuvre qu'on offre à Dieu. Autrement, ce n'est pas de la théologie. C'est pour que notre intelligence glorifie Dieu. C'est une manière de glorifier Dieu. C'est un labeur. La théologie est un travail. Il ne faut pas l'oublier. C'est un travail comme un autre travail. Eh bien, c'est un labeur dont on offre l'œuvre à Dieu. On offre les prémices. Et pour saint Thomas, les prémices étaient son traité de l'Eucharistie. Alors, on offre les prémices à Dieu. Et on l'offre à Dieu en vue de la charité fraternelle pour les autres, pour que la parole de Dieu puisse être communiquée dans toute sa force aux autres. Donc il y a toujours les deux aspects dans toute œuvre théologique. Il y a une coopération qui doit glorifier Dieu, et il y a le fait que cette coopération permet d'éclairer les autres. Si on fait de la théologie, c'est pour pouvoir parler correctement du mystère de Dieu et de l'enseignement de l'Église. Parce que celui qui n'a pas fait de théologie, quand il se met à parler de ces choses-là, il dit des tas d'erreurs. C'est très curieux, avec quelquefois d'excellents sentiments, merveilleux. Mais il dit des tas d'erreurs. Et alors c'est une sauce vinaigrette, hein, particulière. Ça va plus. La théologie, c'est pour parler correctement et en toute vérité. Communiquer de façon plus toute la richesse de la parole de Dieu. C'est pour ça. Donc c'est d'abord pour glorifier Dieu comme un fruit de la contemplation. Et puis ensuite la communication aux autres. Alors, si entre parole humaine et parole divine, parole de Dieu, parole de Jésus, il n'y a pas d'analogie propre, je ne pourrai pas unir ce qui m'est donné dans la révélation et ce qui m'est donné dans la philosophie. Pourquoi quelqu'un comme Barthes, Karl Barthes, dit que la théologie c'est le diable? Pourquoi dit-il ça? C'est parce que justement pour lui, entre révélation et philosophie, intelligence humaine, précisons pas plus, disons l'intelligence humaine qui veut aller le plus loin possible dans sa pénétration, une intelligence qui veut pénétrer le plus loin possible dans le réel, si pour Karl Barth la théologie est du diable, c'est une œuvre démoniaque qui ne peut pas glorifier Dieu. Pourquoi? C'est parce que pour lui, entre la révélation et la philosophie, il y a équivocité pure. Et dire qu'il y a analogie, c'est dire confusion. Alors, première remarque, c'est que pour lui, l'analogie, ce n'est pas du tout ce que nous entendons par analogie. Il entend analogie dans le sens de la scolastique décadente, c'est-à-dire avant tout une similitude. Alors que pour nous, l'analogie est premièrement une diversité. Alors, si c'est d'abord une similitude, vous comprenez, c'est très dangereux. Parce qu'alors, je ferai de l'anthropomorphisme. J'attribuerai à Dieu ce qui est propre à l'homme. Alors là, je suis d'accord avec Karl Barth. C'est très vrai que si l'analogie est premièrement une similitude, vous savez, comme quand les artistes parlent de similitude et d'analogie, c'est la même chose pour eux. C'est le père similitudinem de saint Thomas. Or, le père similitudinem de saint Thomas, ce n'est pas l'analogie. C'est tout simplement une comparaison. On prend le point de vue de la comparaison et la similitude est première. Les artistes, quand ils parlent d'analogie, parlent en premier lieu de ressemblance, de similitude. Le métaphysicien, quand il parle d'analogie, parle en premier lieu de diversité. Entre la révélation de la parole divine et la parole humaine, il y a en premier lieu une diversité. et en second lieu, quelque chose de commun. En second lieu, c'est d'abord la diversité. Et puis il y a quelque chose de commun, un tikkoïnon, quelque chose de commun. Alors, donc, si l'analogie, c'est d'abord une comparaison, une similitude, je suis d'accord qu'on ne peut pas faire ça, parce qu'on tomberait dans l'anthropomorphisme. Mais je ne suis pas d'accord avec Karl Barth, parce qu'entre la parole de Dieu et la parole humaine, il y a une analogie au sens fort. Il n'y a pas une pure équivocité. Vous voyez, vous êtes là au point de réflexion critique sur la possibilité d'une théologie. C'est même important. Aujourd'hui, où la théologie est en état de crise, c'est important de réfléchir d'où vient cette crise, comment la théologie a-t-elle la fièvre, et d'où ça vient. C'est parce que trois possibilités, trois possibilités qu'il faut toujours bien comprendre. L'équivocité pure, qui fait qu'entre le mystère de Dieu et le mystère et ce que l'homme dit, ce que l'homme peut dire de Dieu, il y a équivocité pure. Et ceci parce qu'on ramène l'intelligence à la raison. Et ceci parce qu'on ramène la métaphysique à la logique. Entre la logique et la parole de Dieu, il y a pure équivocité. Alors, si on ramène la métaphysique à la logique, évidemment, je comprends très bien. C'est de la pure équivocité. Et s'il y a pure équivocité, il n'y a pas possibilité d'une coopération. Si on accepte la coopération, elle peut s'entendre de deux manières. Une coopération au niveau de l'analogie proprement dite. Alors, on peut, à partir de là, comprendre une théologie scientifique. À partir d'une analogie métaphorique, on peut, à partir de là, comprendre une théologie mystique. Donc, il faut bien voir ces trois moments. Parce que ça, c'est important par rapport à ce que nous voyons ici. Donc, le mystère de la parole de Dieu. Alors, on va essayer de voir ces trois aspects-là, si vous voulez. Parce que c'est cela qui va nous permettre de comprendre la naissance légitime. C'est toujours important de savoir si c'est une naissance légitime ou si c'est un bâtard. La naissance légitime de la théologie. Ça, le théologien est un peu une sage-femme, vous voyez, parce que c'est d'assister à cette naissance légitime de la théologie. Assister à ce que représente cela. Alors, premièrement, je prends la position de Karl Barth. Il y a équivocité pure entre la parole de Dieu et le dit. Le logos philosophique. Le logos divin et le logos philosophique. Il y a une capacité pure. Donc, rien de commun. Rien de commun entre les deux. Et vous voyez, on peut s'appuyer sur certains textes de l'Écriture, hein, comme aussi loin, aussi éloigné le ciel de la terre, aussi éloigné. Bon, c'est vrai. Et dans une certaine tradition, on va appuyer là-dessus, on va appuyer sur ce point de vue-là. Il y a toute une tradition juive, n'est-ce pas, que saint Thomas souligne, du reste rappelle, qui affirme le primat de la transcendance d'une façon telle que équivocité pure. C'est très beau quand c'est pour affirmer la transcendance absolue de Dieu et de montrer que tout ce que nous disons de Dieu, ce sont des balbutiements. Entre ça et Dieu, évidemment, il y a équivocité. Il faut reconnaître que c'est vrai, d'une certaine manière, il y a équivocité entre l'être de Dieu et mon être. Équivocité, c'est-à-dire, c'est tout autre. Et ceci pour respecter la transcendance de Dieu. Et ceci, c'est contre tout immanentisme ou tout anthropomorphisme. Première chose qui est montrée cela, s'il y a uniquement cette équivocité, il est bien évident que la parole de Dieu qui est reçue dans la foi, elle est reçue dans la foi pour être gardée dans la foi, mais je ne peux rien ajouter à cette parole. À ce moment-là, je ne comprends plus le texte d'Isaïe. À ce moment-là, je ne comprends plus la parabole de la semence et de la parole de Dieu. Puisqu'il faut retourner en portant des fruits. Alors, d'où ça vient ? Je ne vois plus comment c'est une semence qui implique une fécondité. Donc quand je suis dans la pure équivocité, je n'explique pas certains textes de l'Écriture. Certains semblent aller dans ce sens-là, c'est bien évident. Quand j'appuie sur justement l'altérité absolue de l'existence de Dieu et de l'être de Dieu, de ce qu'est la créature. L'intelligence de Dieu, de mon intelligence. Et donc la parole de Dieu, de ma propre parole. C'est vrai. D'autres textes montrent qu'il y a une fécondité. Que la parole de Dieu est reçue dans la foi, mais il y a un retour fécond. C'est la fécondité. Il y a un fruit. D'où ça vient ? Ça ne peut venir que d'une coopération de l'intelligence humaine, source de la parole humaine, qui, dans la foi, reçoit la parole de Dieu et alors retourne vers Dieu. Vous voyez que ce problème est parallèle à un problème théologique très important, les rapports de la grâce et de la nature. Je peux concevoir la grâce comme n'ayant rien de commun avec la nature. La position un peu de Luther. La grâce vient d'en haut, elle me revêt du Christ, mais ma nature humaine, étant corrompue par le péché, ne peut en rien être le réceptacle de la grâce. Je suis revêtu. Ma nature humaine en rien. Et donc l'intelligence humaine n'est en rien, elle n'est que revêtue par la parole de Dieu. Elle n'est en rien le réceptacle de la foi et donc de la parole de Dieu. Les deux choses se tiennent. Alors on voit des positions théologiques très nettes. La position de Luther, la position de Karl Barth, c'est normal qu'on retrouve ces positions-là. Et on retrouverait, j'en suis sûr, dans certaines traditions juives, par rapport à la parole de Dieu, la même chose. La position de Maïmonide. La position de Maïmonide, c'est une position qui montre et qui veut absolument montrer la transcendance de la parole de Dieu. Alors, c'est respectable, ces positions-là. Il faut toujours être très... Il faut comprendre que ces positions-là ont quelque chose de juste. Il y a quelque chose de juste. Mais celui qui tient cette position-là devrait se taire s'il était logique avec lui-même. Alors, c'est très curieux qui continue de faire de la théologie. C'est plus fort qu'eux. Parce qu'il devrait se taire. Hein. Si la foi de fait est totalement équivoque par rapport à mon intelligence humaine, je devrais être uniquement le croyant qui reçoit la parole de Dieu et qui la garde. Je ne peux même pas la répéter. Hein. Quand je la répète, c'est moi qui le dis. Donc déjà, c'est quelque chose qui s'ajoute. Vous voyez cette position-là, quand je prends l'Apocalypse, et au terme de l'Apocalypse, vous savez, quand il est dit que personne n'ajoute quelque chose ou ne retranche quelque chose à la parole de Dieu, il y a quelque chose d'assez farouche quand vous regardez le terme de la révélation hein, de l'Apocalypse. Ça va dans ce sens-là, et ça pourrait très bien aller dans ce sens-là. Je l'atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute... Ah, il ajoute. Est-ce que la théologie n'ajoute pas quelque chose à la parole de Dieu ? Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre, comme elles sont nombreuses. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont décrites dans ce livre. Donc, c'est pour le purisme de la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, on doit la garder dans le silence. Marie, elle garde la parole de Dieu dans le silence. Parce que déjà la transmettre, c'est ajouter quelque chose. Forcément, ça ne peut pas être autrement. On y ajoute au moins notre voix. Et on y ajoute notre intelligence, puisque notre intelligence, quand même, est là. Ou bien alors, il faudrait dire que l'intelligence n'a rien à voir avec la foi. Alors, à ce moment-là, justement, au fond, on ne peut plus rien dire. On se tait. De fait, d'autres textes nous montrent le mystère de la fécondité de la parole de Dieu. Semence, pluie, neige, fécondité. Donc, si la parole de Dieu implique cette transcendance, elle implique cependant la possibilité d'une coopération. Et là, je reprends alors la thèse classique que la grâce ne détruit pas la nature, mais la grâce permet à la nature d'être parfaitement elle-même, d'aller jusqu'au bout de ses exigences propres. Et donc, à ce moment-là, je peux dire qu'il peut y avoir une coopération entre la foi reçue dans l'intelligence humaine et la parole de Dieu, et l'intelligence humaine. Il y a une double coopération, si vous voulez. Comprenons bien, une double coopération. Première coopération, c'est que la foi étant reçue dans l'intelligence, chaque fois que je fais un acte de foi, je fais un acte d'intelligence. Première coopération, de l'ordre de l'exercice. La foi détermine, et dans l'ordre de l'exercice, c'est comme l'intelligence. L'intelligence se meut. Et elle se meut en portant la foi et en étant transformée par la foi. Donc, dans l'ordre de la causalité, l'exercice. Et je vois une seconde coopération, et c'est celle-là que je vais voir tout de suite avec vous, cette seconde coopération qui fait que la foi, l'intelligence transformée par la foi, est capable d'accueillir dans son sein une pensée philosophique. Et il est capable, à ce moment-là, d'y avoir une coopération entre la foi reçue dans l'intelligence et la foi qui se nourrit de la parole de Dieu et le point de vue d'un logos philosophique. Et ce n'est pas ajouter à la parole de Dieu, c'est permettre à la parole de Dieu de connaître tout son épanouissement. Ce sont toutes les virtualités qui sont contenues dans la parole de Dieu qui peuvent à ce moment-là s'épanouir, s'expliciter. Et donc ce n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter de l'extérieur. C'est quelque chose qui est comme assumé par le mystère de la foi et dans le mystère de la foi. C'est la parole de Dieu qui, à ce moment-là, peut assumer une parole humaine, un logos philosophique. Il s'agit de comprendre comment peut se faire cette coopération. Et vous voyez pourquoi je l'ai dit, hein ? C'est pour expliquer pleinement et totalement ce qui m'est dit sur la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une invention de l'Église. C'est dans l'Écriture. Et dans l'Écriture elle-même, je trouverai cette espèce d'apport qui existe constamment. Je pourrais dire que dans les livres sapientiaux, par exemple, il y a l'apport d'une pensée philosophique humaine. Vous voyez, là, c'est très délicat, parce qu'on dirait, mais c'est tout simplement parce que c'est la révélation. C'est très bien, c'est impliqué dans la révélation. Donc, ce n'est pas un apport extrinsèque. Mais la parole de Dieu demandant d'être fécondée, la parole de Dieu demandant de retourner vers Dieu en appliquant la fécondité, il faut nécessairement qu'il y ait un apport qui vient de l'intelligence humaine. Alors, comment va se faire cet apport? Il faut que la parole de Dieu, par rapport à la parole humaine, ne soit pas totalement diverse. Autrement dit, Dieu se sert de la parole humaine. Si Dieu se sert de la parole humaine, il ne la détruit pas. Il lui donne une nouvelle dimension. Mais il ne la détruit pas. Ce sont les analogies que les pères de l'Église ont faites entre le mystère de l'incarnation et le mystère de la parole divine. dans le mystère de l'incarnation, le Verbe assume la nature humaine. Et la nature humaine est présente dans le mystère du Christ. La nature humaine n'est pas détruite. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est le Verbe et la nature humaine est assumée dedans. Dans la parole divine, il y a quelque chose de semblable. La parole divine assume la parole humaine, lui donne une nouvelle signification, une nouvelle orientation, une nouvelle valeur. Exactement comme la nature humaine assumée par le Verbe possède quelque chose de tout à fait nouveau. La nature humaine du Christ n'est pas uniquement humaine, elle est humano-divine. Elle est humaine et elle est divine. De même, la parole divine qui assume la parole humaine fait que la parole humaine dans la parole divine est présente, mais a une nouvelle valeur. Une valeur toute différente. Une grandeur nouvelle, et c'est là où je peux préciser justement toutes les qualités particulières de cette parole. Mais ce qui est important à voir, c'est que la parole humaine demeure. Elle n'est pas détruite. Elle est transformée. Quand Dieu dit « Je suis », je prends exprès ce point de vue-là, parce que c'est le point de vue contesté aujourd'hui. Quand Dieu dit « Je suis », je peux très bien dire « Je suis » indépendamment de la révélation. Hein ? Vous pouvez le dire « Je suis ». C'est vrai. J'existe. Donc « Je suis ». Et quand je le transpose dans le parole divine, ça prend une signification totalement différente. Mais il y a quelque chose de commun. Ce n'est pas détruit. Ce n'est pas la destruction de l'affirmation de l'exister qui s'opère quand Dieu dit « je suis ». Il y a une transformation de l'intérieur qui se fait, qui nous donne une nouvelle signification. Exactement comme quand le Verbe assume la nature humaine. Cette analogie, elle est reprise à travers toute l'Écriture et on comprend très bien, puisque c'est l'Épître aux Hébreux qui nous montre cela, d'une certaine manière. On pourrait dire qu'au début de l'Épître aux Hébreux est contenue cette référence que donnent les Pères de l'Église en faisant le mystère de la parole et le mystère de l'incarnation. Une fois que je comprends cela, que la parole humaine n'est pas détruite dans la parole divine, mais qu'elle a une nouvelle existence, qu'elle a une nouvelle signification. Je peux donc essayer d'expliciter à ma manière la parole humaine contenue dans la parole divine. Exactement, vous voyez, je reprends la théologie, exactement comme le théologien peut, sachant que la nature humaine est présente dans le Christ, je peux analyser qu'est-ce que c'est que cette nature humaine. Saint Thomas étudie les passions pour voir comment les passions existent dans la nature humaine du Christ. Si la nature humaine dans le Christ était volatilisée, je ne pourrais pas faire ça. Il n'y aurait plus que le même. Mais si la nature humaine demeure dans le Christ, c'est-à-dire dans le Verbe qui assume la nature humaine, et que la nature humaine demeure pleinement elle-même, je peux donc analyser toutes les qualités de cette nature humaine pour mieux comprendre le mystère du Christ. Oui. Donc je peux faire la même chose ici. La parole divine assume la parole humaine. C'est sûr. Quand Dieu dit « je suis », Dieu prend la parole humaine « je suis ». Et quand c'est Dieu qui le dit, ça prend une valeur toute nouvelle. Mais la parole humaine est assumée. Donc si la parole humaine est assumée, je puis très bien analyser cette parole humaine assumée par la parole divine. Et essayer d'analyser philosophiquement, de la manière la plus profonde, la signification de cette parole humaine dont Dieu se sert pour nous donner une parole divine. Et ce sera justement cet essai qui sera le propre de la théologie. Alors, si vous avez des questions, notez-les. Hein. C'est une question très difficile, très délicate, sur laquelle on se cassera tous le nez ou les dents. Donc il faut essayer d'y réfléchir et essayer de la voir dans sa plus profonde unité.